couture.
Pierre a livré la marchandise.
Dans le mid.
Avec Pierre Couture.
Pierre a réussi.
Et Nick Cloutier.
Les chiffres le prouvent.
Radio X.
Ouais, alors que le prix du baril de pétrole baisse ce matin, à Saint-Jean-de-Port-Joli, Nick.
On m'envoie une photo, là, on me dit, sortie Saint-Jean-de-Port-Joli, 2,9 le gaz.
C'est pas du diesel, là.
Non, non. Station, trois stations au même prix. Shell, Esso, Petro.
2,9. Alors que tu regardes le prix de baril de pétrole ce matin, baisse de 3,83 $, 94 et 88. Dans la région de Québec, ça varie, là.
Ouais.
1,62, 1,64, 1,72. On est là-dedans. Voilà. Notre chroniqueur santé, on y parle assez souvent.
Ouais.
On va l'appeler notre chroniqueur santé.
D'accord.
Médecin, c'est pas pire.
Oui.
Karim Elayoubi, comment allez-vous?
Bonjour, ça va bien, vous?
Ben oui, ça va bien, ça va bien. Monde de la santé, là, on apprend notamment les IRM. Il y a 50 000 personnes de plus en attente d'une IRM qu'il y a 3 ans. Qu'est-ce qui se passe? Ouais.
Ben, c'est beaucoup un vieillissement de la population. Il y a deux choses principales. Compte tenu qu'il y a un vieillissement de la population, comme on avait déjà parlé, ben, c'est certain que on vit dans une pyramide inversée. Plus on est vieux, plus on est malade, plus on est malade, plus on a besoin de traitement.
Ouais, ouais.
Mais avant de faire un traitement, ça prend un diagnostic. Et pour certaines entités, parce que tu sais, juste pour faire la différence rapidement, par exemple, un rayon X, un scan, on voit très bien les os, on voit ce qui est dur. Par contre, lorsqu'on veut bien voir les tissus mous, comme par exemple la moelle épinière, le cerveau, certains organes comme le foie, par exemple, dans des contextes de cancer, des choses comme ça, c'est ce qu'on appelle là, vraiment le gold standard, c'est-à-dire le meilleur examen en 2026, mais c'est la résonance magnétique. Et plusieurs oncologues, par exemple, poursuivent l'évolution de leur traitement de chimiothérapie pour voir s'il y a des récidives de cancer, bien, la résonance magnétique va être beaucoup plus précise qu'un scan, parce qu'on parle vraiment d'organes de tissu mou. Et compte tenu qu'il y a un vieillissement de la population, bien, il y a de plus en plus de cancer. Il y a de plus en plus également de dernier discale. On a besoin, avant de procéder à une chirurgie de la colonne vertébrale, par exemple, pour aller opérer un hernie discale, ben c'est beaucoup mieux d'avoir accès à une résonance magnétique qu'un scan. Et l'autre point, c'est que la pratique de la médecine, comme dans tout pays du G7, il y a une évolution au niveau des critères, des standards de pratique. C'est-à-dire, dans les années 80, ben, on n'utilisait pas d'IRM, on utilisait des scans pour à peu près tout, puis même des fois juste des rayons X. Les choses ont changé, donc les standards de pratique qui sont exigés par les autres professionnels, notamment, sont de plus en plus élevés. Et comme on est un pays du G7, ben, on essaie de suivre la tendance, puis de regarder les grandes recommandations qui se font. Donc, plus de demandes d'examen en résonance magnétique. Et le nombre de technologues n'a pas augmenté. C'est-à-dire, le nombre de technologues, là, depuis les 7-8 dernières années, est demeuré stable, mais on a une augmentation très significative de la demande d'examen. Donc, ça nous prendrait plus de technologues dans le réseau public, soit plus de sous-contractions dans le réseau privé avec la carte d'assurance maladie, compte tenu que les délais des patients sont déraisonnables pour avoir accès à la résonance.
Et justement, on parle de délais qui peuvent atteindre jusqu'à 12 mois d'attente.
Inacceptable.
C'est incroyable.
C'est beaucoup trop long. Puis même, des fois, ça dépend des entités pathologiques, mais des fois, il y a des maladies pour lesquelles même 3 mois, c'est inacceptable. Mais si vous me parlez d'un an, c'est inacceptable pour n'importe quoi, parce que c'est comme ça, le classique, par exemple, là, un an, ça va être, disons, un patient qui n'est pas paralysé de sa jambe, mais qui va avoir une douleur importante, par exemple, mal dans le dos, ça irradie dans la jambe. On a fait de la physiothérapie, on a fait une infiltration, ça n'a pas fonctionné. Là, on va à la résonance magnétique pour voir si on va le référer à un chirurgien de la colonne pour opérer son hernie discale. Des fois, ça peut prendre plus qu'un an, mais ça, il y a des souffrances. Parfois, il y a des prescriptions de narcotiques, il y a des dépendances aux narcotiques qui sont créées suite à ça parce que les patients ont très mal. Donc, ça fait en sorte qu'on a... c'est un problème en soi. Là,
on avait... les chiffres viennent du journal Le Devoir. Là, c'est les chiffres de Santé Québec. On avait, en décembre 2022, 94 714 Québécois en attente d'une IRM. Et là, on est rendu à 146 328 en décembre 2025. À un moment donné, je veux dire, l'argent, là, Les Québécois paient de plus en plus cher pour avoir accès à leur réseau. Hein? Les taxes, les impôts augmentent. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça?
Ben, c'est-à-dire, ce qu'il faut faire ici, c'est regarder. Il y a beaucoup, quand on parle de l'argent qui est mis dans le réseau de la santé, malheureusement, il n'y en a pas suffisamment, selon moi, là, qui est mis vraiment sur le terrain. Lorsqu'on regarde juste l'organigramme du réseau de la santé, là, faites juste vous amuser à regarder, pas celui, juste un d'un CIUS ou d'un CIUS, c'est vertigineux, mais regardez le ministère de la Santé, après ça, Santé Québec à côté.
On a ajouté un étage, là, c'est ça?
On a ajouté encore un étage, mais dans tous ces étages-là, imaginez-vous le nombre de doublons qu'il y a, imaginez-vous la quantité phénoménale d'argent qui est mis au sein là, de ces organigrammes, puis au sein de ces doublons, puis des fois de ces triplons-là. Donc, il y a vraiment un ménage à faire pour redistribuer les effectifs sur le terrain et l'argent sur le terrain. Ça, c'est la première chose. Après ça, c'est bien connu. Plus une société est riche, plus elle investit en santé. Ça, c'est très, très, très connu comme phénomène. On dit, bon, les Américains, leur système de santé coûte cher. Je veux bien, mais ils sont très riches. Ils sont très riches aussi. Même chose pour les Suisses. Donc, à partir du moment où on est capable de créer de la croissance économique, on est capable de faire en sorte qu'on ait une société qui est plus riche, de facto, il va y avoir plus d'investissements qui vont être faits en santé. Et l'autre point, c'est l'efficacité. C'est-à-dire, pourquoi, moi, je plaide beaucoup pour de la sous-contraction dans le réseau privé? Parce que le réseau privé, pour plusieurs choses, est capable de faire 2 à 3 fois plus d'interventions par unité de temps parce que, de par sa nature, il est beaucoup plus efficace. Il n'est pas encarcané dans des conventions et ça roule plus. Donc, c'est ça les solutions. Et également, regardez où est-ce qu'on a des pénuries d'effectifs. Technologues, à l'heure actuelle, on a une pénurie d'effectifs. Donc, il faut attirer des technologues, il faut en former parce qu'une résonance magnétique, théoriquement, une résonance magnétique qui fonctionne dans un modèle qui fonctionne, elle devrait fonctionner presque 24 heures sur 24. Si on veut l'utiliser là, à sa rentabilité, il y a des endroits qui le font, mais c'est-à-dire on l'utilise. Si tu la mets dans le privé, par exemple...
Elle va rouler, là.
Ben, oui, parce qu'elle est vue comme une source de revenus, elle n'est pas vue comme une source de dépenses. Donc,
Mais pourquoi on ne fait pas affaire davantage avec le privé? On l'avait fait, je pense, là, une couple d'années. On avait désengorgé les listes d'attente. Là, on est revenu à 140 quelques mille patients en attente d'une IRM. Le privé ne peut pas jouer un rôle là?
Ben oui, la réponse est clairement oui, mais c'est que ça coûte de l'argent. Donc, c'est-à-dire.
Ça coûte de l'argent de l'autre bord avec. Le fait qu'on fasse poireter des gens en attente d'une IRM, imaginez le coût social que ça a aussi, ces gens-là. La maladie peut prendre l'ampleur, on peut être stressé, on peut manquer du travail en productivité et autres, là.
Ah oui, clairement. Puis ça, l'Institut Fraser avait bien calculé ça. Il avait montré au Canada combien notre monopole public ou notre quasi-monopole public faire en sorte qu'on fait payer les gens en liste d'attente, en rationnement, mais que c'est pas intelligent de faire ça parce que t'as plus de coûts, t'as des coûts sociaux qui sont quand même très importants par la suite, ne serait-ce qu'en qualité de vie, mais aussi économiquement parlant, puis ça chiffre ça. Donc, je pense que ça prend un certain courage politique pour dire c'est assez, cet organigramme-là, il est beaucoup trop lourd. On passe la scie mécanique là-dedans. On redistribue les effectifs vers le terrain. Les doublons, les triplons dans la pyramide, c'est terminé. Puis l'argent, les services vont directement aux patients. C'est comme ça. Quand vous regardez les organigrammes des modèles qui fonctionnent bien sur la planète, là, c'est très, très simple. Hein? C'est assez simple. Il y a un ministre. Après ça, il y a quelques fonctionnaires en bas de lui, puis tout le reste est décentralisé vers les hôpitaux puis les cliniques. Là. Vous n'avez pas tous ces gros organigrammes-là. C'est surprenant quand on regarde, par exemple, l'organigramme du système de santé des Pays-Bas ou l'organigramme de santé de la Suède, très, très, très décentralisé vers les cantons. Là. Donc, on a un problème ici. Trop de centralisation, trop de monopole public, pas assez d'efficacité, puis trop de gens dans la machine qui ne donne pas de service directement aux patients.
Là, le ministre de la Santé doit sortir là-dessus, dire, écoutez, on donne la consigne au privé, on ordonne de faire débloquer les listes.
C'est ce qu'il devrait faire, mais pour ça, s'il ne réduit pas son personnel dans sa machine, ses programmes dans sa machine, qui sont des doublons, des triplons, ben, il va falloir qu'il augmente le budget de Santé Québec, mais ce qu'il a demandé à Santé Québec, c'est occupés. Donc, ça me surprendrait que le ministre fasse ça parce qu'il sait, il sait qu'il faut qu'il rationne si... il veut pas que son budget explose.
Mais Santé Québec, eux, ça fait plus d'un an là, qu'ils sont en fonction. Eux autres, ils ont, j'imagine qu'ils ont identifié là, les doublons et les triplons. Pis, est-ce qu'ils vont passer à l'action un jour, eux autres?
Bien, j'espère. Parce que si, en tout cas, s'ils sont capables de faire ça, puis s'ils identifient, puis s'ils rapatrient cet argent-là plus près des services, puis ils sont en mesure de décentraliser le réseau de cette façon-là, malgré qu'eux-mêmes sont une structure centralisatrice, mais s'ils sont capables de faire ça, d'éliminer les doublons, les triplons dans le réseau, ben moi, je vais leur lever mon chapeau à ce moment-là. Ça devrait être vraiment leur priorité ici pour, comme on a dit, rediriger le dollar le plus possible près du patient.
Parce que l'IRM, là, c'est le départ du patient. Une fois qu'on a identifié l'IRM, on a une ARM, on est capable de voir puis de bien diagnostiquer le patient. Si ça bloque là, ça veut dire qu'on bloque à l'entrée.
Ben oui.
On rationne les soins, là?
Ben oui, c'est-à-dire un chirurgien qui va opérer, par exemple, un chirurgien oncologique qui va opérer un cancer, il ne s'amuse pas à ouvrir le patient puis regarder en temps réel qu'est-ce qui se passe. Il faut qu'il planifie sa chirurgie, c'est-à-dire qu'il va demander une IRM et en fonction de l'IRM, il va voir l'étendue de la tumeur, l'anatomie de la tumeur, l'anatomie du patient et il va pouvoir prévoir sa chirurgie étape par étape, mais pour ça, il faut qu'il y ait une imagerie de départ. Là. S'il n'y a pas cette imagerie de départ, ben, il ne peut pas faire sa chirurgie, tout simplement.
Voilà. Ce médecin spécialiste, là, les médecins spécialistes disent on accentue les moyens de pression. Qu'est-ce que ça peut créer? Et qu'est-ce qui se passe avec les spécialistes? Est-ce qu'on va régler un jour?
Ben, à venir, pour votre première question, le fameux, là, ils font des moyens de pression un peu par rapport aux technicalités médico-administratives. Là, ils ont sorti un nouveau moyen de pression qui s'appelle le CRDS. Bon. C'est-à-dire qu'ils veulent plus qu'on les médecins de famille. Parce que les médecins de famille, lorsqu'on envoie, c'est-à-dire une consultation à un spécialiste, si on l'envoie de l'urgence ou de l'hôpital, on l'envoie directement au spécialiste, à sa clinique ou à son hôpital. Par contre, si on est du bureau, médecin de famille en bureau, on envoie via une plateforme centrale qui s'appelle le CRDS. Et ça, ben, y a quelqu'un qui regarde ça et qui distribue les consultations aux spécialistes. Bon, est-ce que là, c'est sûr que c'est plus confortable pour un médecin de famille, tu l'envoies, tu n'envoies pas ça par fax, tu envoies ça par électronique sur le CRDS. C'est sûr que pour nous, c'est plus confortable. Est-ce que ça va vraiment... est-ce que ça va affecter les rendez-vous donnés aux patients? Moi, je ne pense pas. Pourquoi? L'ancien modèle, il n'y avait pas de CRDS, puis tant qu'à moi, il fonctionnait mieux qu'avec le CRDS, parce que le CRDS, c'est une bonne idée, mais la façon dont il est exécuté, les patients n'ont comme pas de rappel de leur rendez-vous, puis des fois, le rendez-vous a été donné il y a un mois et demi, deux mois, ils ne s'en souviennent pas, donc il y a beaucoup de no-show. Après ça, des fois, il y a des patients qui sont vus en double, puis le patient voit deux fois, par exemple, il va voir deux fois un neurologue parce que le système n'a pas bien pris en charge. Puis moi, je travaille près des frontières de l'Ontario, j'envoie plusieurs de mes patients en Ontario. Via l'Ontario, il n'y a pas de CRDS. J'envoie une consultation directement au spécialiste, puis il le voit souvent plus vite qu'au Québec. Donc, est-ce que vraiment ça va... C'est un moyen de pression qui fait comme faire en sorte que nous, ça nous ennuie un peu, les médecins de famille, mais ultimement, pour le patient, je ne pense pas qu'il va avoir d'impact sur le patient. Et de toute façon, ils n'ont pas le droit de prendre des mesures qui pourraient avoir un impact à l'accès des soins des patients. Puis quand j'ai entendu le Dr Oliva parler à la télévision, il mentionne toujours que les patients ne seront pas affectés. C'est juste que dans le système, pour nous, les médecins de famille, c'est plus confortable d'envoyer via le CRDS, mais c'est un système qui, d'emblée, ne fonctionne pas très bien tant qu'à moi.
Mais c'est quoi qu'on décode des négos avec les médecins spécialistes? Legault, lui, dit « je m'en vais ». Lui, sur le pilote automatique, il va avoir Mme Fréchette ou M. Drainville vont devenir... un ou l'autre va devenir le chef de la CAQ et par la bande premier ministre. Aura réglé ça, cette histoire-là?
En ce moment, c'est sûr qu'ils demandent pour pouvoir atteindre leur objectif d'avoir plus de personnel, d'ouvrir plus de salles d'opération, tout ça. Ça fait partie des demandes, mais ce que je décode en ce moment, c'est que le nerf de la guerre, c'est l'augmentation salariale. Le gouvernement offre 11 % sur 5 ans. Au départ, les spécialistes demandaient 17 % et là, ils sont rendus à 14 %. Bon, Le point, c'est qu'ils veulent avoir quelque chose qui va soutenir l'inflation, particulièrement l'inflation des frais de cabinet. Parce que malheureusement, la semaine dernière, j'étais à l'extérieur du pays, la connexion n'était pas bonne, ça a coupé exactement à ce moment-là. mais là, je vais pouvoir finir qu'est-ce que je vous avais dit. C'est que ce qu'il faut comprendre lorsque vous regardez le chiffre, par exemple, mettons que vous voyez un spécialiste qui fait 500 000 $ par année, qui facture 500 000. Bon, c'est un chiffre d'affaires, puis il y en avait un chirurgien qui avait tout décliné ses chiffres à Patrick Lagacé il y a une couple de mois, puis je trouvais ça quand même intéressant qu'un médecin le fasse. Lui, il avait tout décliné, il avait dit, bon, après, m'en être placé pour ma retraite parce que j'ai pas de fonds de pension, après, assurance de malpractice, après...
Ça doit coûter cher, les assurances
Ouais. Exactement, après les frais de cabinet, tout ça, ce que ce médecin disait, lui, il facture 500 000, mais son take-home pay, là, comme les anglophones disent, c'est-à-dire son salaire qui lui revient dans ses poches après impôt, tout ça, c'est autour de 150 000 par année. Donc, très bien payé, 150 000 net dans tes poches à la fin de l'année.
Mais aux États-Unis, il ferait un million. Là.
Tu fais partie des privilégiés de la société, 150, 160, mais on s'entend, tu ne voyages pas en première classe puis tu ne conduis pas des Ferrari. Donc, tu sais, il faut je pense que ça prendrait plus de médecins qui en parlent. Après ça, ce sera aux gens du jeu. Parce qu'à partir du moment où tu regardes, tu dis, 500, mettons, 400, 450, 500 000, tu dis, oui, mais c'est des gens qui conduisent des Ferrari. Ben, pas tout à fait, là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de frais parce que c'est un, faut que tu le vois comme un chiffre d'affaires. Puis, on fait partie des privilégiés, on est très bien payés, mais on n'est pas si riche que la majorité des gens pensent. Ça, c'est quand même important de le dire. Et eux, ce qu'ils disent, ben, ils disent, à 11 % avec mes frais de cabinet qui ont augmenté parce que mon enveloppe est bloquée depuis 10 ans, ben, autrement dit, je vais m'appauvrir si on ne donne pas au minimum l'inflation.
Ouais.
Donc, c'est un peu leur demande. Maintenant, est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? Moi, je laisse les gens juger, mais c'est un peu ça qui est sur la table en ce moment.
Oui, c'est ça. C'est à peu près ça, 550 000 $ le salaire moyen d'un spécialiste au Québec. Et quand on décline les dépenses, on comprend, ils sont incorporés, là, ils peuvent en laisser plus dans leur entreprise, mais au final, ils vont payer de l'impôt pareil là-dessus. Là.
Oui, c'est de l'impôt reporté. Après ça, à la retraite, lorsque tu le sors, c'est de l'impôt reporté. Puis si tu le donnes en héritage, parce que si t'en restes, il y a de l'impôt à payer là-dessus.
C'est ça.
Donc, puis l'incorporation, puis je dis pas ça pour me plaindre du tout, là, je le dis, je le répète encore, on est parmi les privilégiés de la société, mais l'incorporation d'un médecin, c'est pas comme l'incorporation d'un avocat, par exemple. T'sais, mon frère, lui, est avocat. Il y a des choses qu'il peut mettre beaucoup plus sur son incorporation. Nous, on est beaucoup, beaucoup plus restreint dans ce qu'on peut mettre.
Puis les assurances, là, comment tu penses, ça peut coûter combien des assurances? Pour un, mettons, un chirurgien cardiaque là, qui opère à cœur ouvert, un spécialiste, lui, ça dépend des méchantes assurances, là?
C'est une bonne question. Il faudrait vérifier avec... parce que ça peut varier beaucoup d'une spécialité à l'autre. Je crois que l'assurance la plus dispendieuse, c'est en obstétrique gynécologie pour la portion obstétrique, là, les bébés qui les mères qui accouchent. Là, parce que quand il se passe quelque chose avec le bébé, ben là, c'est sûr que ça entraîne des poursuites.
Donc, ben
ça,
oui.
C'est la plus dispendieuse. Après ça, il y a les assurances vie aussi, il y a les assurances invalidité. Assurance vie, ça coûte pas très cher. Assurance invalidité
ben
pour
oui,
couvrir
ben
ton,
oui.
ton salaire.
Exact.
Si t'es un chirurgien et tu te blesses la main en ski, puis tu peux plus faire de chirurgie, ben tu as besoin d'une très bonne assurance. Ça coûte très cher, l'assurance invalidité. Donc, tout ça pour dire, il faut le regarder dans son ensemble, puis c'est sûr qu'à partir du moment où la fonction publique a été augmentée significativement, bien, les médecins spécialistes disent 11 % sur 5 ans, ça ne couvre pas l'inflation, puis on a des gros frais à payer, nos frais depuis les 10 dernières années, les frais de cabinet ont à peu près doublé, donc à partir de ce moment-là, ça prend un petit peu plus, donc c'est ça, j'ai l'impression le nerf de la guerre, c'est vraiment ça à l'heure actuelle.
Karim El Ayoubi, médecin, merci beaucoup de vos lumières et on s'en reparle.
Ça m'a fait plaisir. Bonne journée.
Bonne journée. Voilà. On a un médecin qui vient puis qui nous garoche.
Qui nous explique.
Beaucoup d'informations.
Oui.
Vulgarisées. C'est intéressant. Parce que souvent, tu sais, tu regardes le spécialiste. Bon, il fait 550 000. Ben oui, mais t'as-tu vu toutes les dépenses qu'il y a avec?
Oui.
Je comprends. Là, il doit y rester peut-être 200 000.
Il en reste.
Souvent, ça fait pas non plus... ça travaille pas 32 heures semaine.
Non, il travaille.
Tu sais, tu parles avec des gens, là, des fois, tu dis une tabarouette. Pas souvent à la maison, lui.
Il travaille beaucoup.
Ça se peut-tu?
Ça se peut beaucoup.
Ça se peut
pas mal, oui.
Ça se peut. Voilà. Bon, Après la pause, on ouvre les lignes.
88-670-9098.
T'en vas où?
Ben, ça a fait beaucoup réagir, l'histoire du gars qui a poussé l'arbitre. Là.
Ben, poussé. D'après moi, il l'a planté solide.
Il l'a planté solide.
De dos, en plus.
Beaucoup, beaucoup de réactions sur la messagerie. De gens qui disent, ouais, mais c'est pas nécessairement une majorité, c'est une minorité. Puis d'autres qui disent, hey, la culture dans les arénas, c'est le bordel.
Ouais.
Donc, je vais avoir votre avis.
L'alcool aussi.
L'alcool.
Là, le club a réagi là, en disant qu'il était préoccupé par la situation.
Ça arrive souvent que les parents débordent de même.
Ouais.
Tu sais, vous promenez dans les arénas, vous avez des jeunes qui jouent au hockey.
Des anecdotes.
Et, ou au soccer ou à d'autres sports. Est-ce que c'est une minorité? Est-ce que ça arrive plus souvent qu'on pense?
Ben moi, mon gars a joué au soccer, pas au niveau, là, puis c'était juste drôle là, à l'époque. Puis il y avait un grand-père, à un moment donné, qui est venu. Lui, il était jamais au game, mais à un moment donné, il vient, tu sais, le grand-papa vient voir son petit gars. Hey, il criait après tout le monde. C'était débile. Là, il avait appris le prénom de tout le monde. Là, à un moment donné, l'arbitre est allé le voir.
Il criait après les joueurs, lui.
Oui, mais il criait après tout le monde. Et puis les joueurs d'une équipe ou de l'autre. Là, l'arbitre allait voir ce monsieur, baisser le ton.
Ben oui.
Voyez-vous, là, vous êtes seul à crier. Là, là il était
fou. Des jeunes, là.
Là, en le regardant, on leur disait, baisse le ton, buddy. Là. Mais écoute, c'était comme intense. Là. Puis c'était des jeunes de 12 ans, là.
Tu sais, à un moment donné, je racontais tantôt qu'il y a un parent qui lâchait pas son gars au baseball. Écoute, il mettait beaucoup de pression, puis moi, j'avais intervenu. Hein, il disait, ben là, il a 12 ans, là, slack. Tu sais, calme-toi un peu. Puis en fait, c'était moi qui étais en tort de dire aux parents de. Moi, je me suis fait dire, mais d'autres, tes.
Les autres parents, t'as dit ça?
Oui, généralement.
Fait que Cloutier, femme ta gueule.
Oui, c'était ça pas mal, la phrase. Je fais parfait.
C'est bon.
Fait que 88-670-9098, vous en pensez quoi?
On revient après la pause.
Couture dans le mid. Radio. X.